Oui, moi je m'adressais à Madame Pell, c'est ça l'inspectrice,
oui, c'est bien ça.
Dans les textes, à un moment, on avait posé que c'était difficile de mettre des néo-titulaires sur certains types de postes. Enfin, je parle dans le meilleur des mondes, hein, on va être clair. Donc, c'est ce qui m'a interpellée. Ça, c'était ma première question. Et la deuxième, c'était... est-ce que vous travaillez aussi en lien, parce que j'ai bien compris qu'il y avait des problèmes de comportement dans les classes, dans le cadre du conseil local de sécurité et prévention de la délinquance sur mon secteur sont apparus de plus en plus de délinquances très juvéniles, c'est-à-dire un des élèves les maires ont demandé à ce que les inspecteurs viennent maintenant régulièrement au CLSPD, puisque des gamins de CE2, CM1 étaient impliqués dans de nombreux faits de délinquance. Donc je voulais savoir aussi si sur ce secteur vous aviez des liens. Voilà, merci.
Alors je vais tâcher de répondre à la première question, celle de l'attractivité des postes. Effectivement, nos postes ne sont pas attractifs, sont situés loin de l'endroit où nos enseignants font leurs études, tout simplement. Hein, le pôle... excusez-moi, le pôle universitaire de l'Isère est sur Grenoble. C'est au bas mot 90 km minimum hein, pour nos enseignants. Donc effectivement, ils sont souvent, ils habitent très souvent sur Grenoble. Certains font l'effort de déménager sur Vienne lorsqu'ils arrivent. Pour d'autres, non. C'est-à-dire qu'ils restent habitants de Grenoble. Ce qui engendre effectivement des lourdeurs pour eux parce qu'ils font les trajets tous les jours. Et puis, ce sentiment que l'on ressent très profondément et qu'ils finissent parfois par prononcer du fait que je suis là, mais je n'y resterai pas et je ne veux pas y rester. Hein. Donc effectivement, on est allé pour un certain nombre d'écoles qui étaient sur des problématiques... très complexe du fait de cette désertion absolue des enseignants, alors en quartier Cux particulièrement, parce que non seulement quand on fait 90 km, on s'attend quand même à avoir un travail qui vous pose, mais quand en plus toute la journée vous êtes bousculé, vous êtes rapidement dans un état d'épuisement tel que c'est plus possible à gérer, même pour eux. Hein. Donc on est allé jusqu'au poste à profil dans certaines écoles, hein, c'est-à-dire recruter les enseignants sur le volontariat. On ne leur promet rien derrière, on ne leur donne rien derrière. Hein. Simplement, ça nous aide à stabiliser quelques très jeunes enseignants qui sont sur des postes de titulaires remplaçants et qui ont plus envie d'avoir leur propre classe. C'est un vrai challenge pour eux. Alors, ils savent qu'ils sont accompagnés, mais en dehors de ça, c'est tout ce qu'on a à leur offrir. Hein. Donc, c'est pas simple, hein, effectivement. Et tous les ans, on se repose la question. Quant à cette délinquance très, très, très tôt, j'allais dire, hein, très précoce, nous n'avons pas été invités en tant que IEN à participer à ce genre d'instance. En revanche, tout le travail fait à propos de ces élèves-là est fait dans le cadre des partenariats dont Magali vous parlait tout à l'heure.
Oui. Tu vas peut-être préciser. Oui, moi je vais à certaines des commissions, pas à toutes. Et dans le cadre du partenariat, mais là ça prendrait des heures à vous raconter ça, nous avons depuis une bonne dizaine d'années mis en place des ateliers droits et devoirs où nous fonctionnons avec la justice, la PJJ, les éducateurs de prévention, la police bien évidemment, donc qui concerne les classes de CM1, CM2 et 6e, donc sur école collège, donc avec tout un travail spécifique dans ce domaine-là. Mais là je rentre pas dans les détails parce que sinon c'est très très long à expliquer le protocole avec 12 séances qui sont construites dans le cadre d'unité d'apprentissage, etc., etc.
Donc je suis Bruno Mazurel d'ATD Carmonde. Donc en vous entendant, je comprends bien que vous, votre préoccupation, c'est le mal-être des enseignants.
Pas que.
Non, pas que.
Et les enfants, d'accord. Mais ce que je veux dire...
Et les familles.
Voilà.
Qui appellent aussi.
Non, je comprends bien. Hein, mais
voilà, et les familles.
Je pense que ça ne peut pas se régler simplement dans un face-à-face enseignant-famille. Qu'il faut absolument qu'il y ait des gens qui construisent en même temps avec les parents, parce que s'il y a un contentieux, et un besoin de se décentrer, un besoin de réfléchir et un besoin de se former, il y en a un du côté des enseignants, il y en a un du côté des familles. Et si personne ne fait ce chemin pour que les familles aussi démêlent le contentieux qu'ils ont avec les écoles et avec ce qui se passe avec les écoles, vous n'arriverez pas à avancer que par un côté. L'école, hier dans la vidéo, on entendait l'inspectrice dire « l'école ne peut pas régler ça toute seule ». Donc, à mon avis, il faut absolument que la ville soit engagée avec vous et mette des forces pour que la ville ou les associations ou un centre social, je ne sais pas comment c'est configuré, mais il faut... Nous, on parle de co-formation à la Télégramme. Il y a un chemin qui doit se faire des deux côtés. Quand il y a une telle difficulté de communication très grande entre l'institution, les enseignants et les familles et les enfants qui sont en face, et en plus avec des turnovers énormes, des gens qui changent tout le temps, etc. Je veux dire, pour avancer là-dessus, il faut vraiment faire un travail des deux côtés. Et souvent, on néglige. On pense que les parents, c'est des bénévoles, donc ils n'ont qu'à venir. En réalité, les parents, ils ont autant à construire leur participation à l'école. Ils ont des souvenirs, ils ont tout un contentieux parfois avec l'école. Et s'ils ne font pas ce travail de leur côté, les enseignants, ils feront peut-être des pas en avant. Mais s'il n'y a pas un pas en avant qui se fait en face d'eux, ils auront beaucoup de mal à avancer et à sortir du mal-être.
Alors c'est bien dans ce cadre-là qu'on avait pensé cette formation sur un type partenarial, c'est-à-dire que les familles étaient pour nous pleinement intégrées dès le départ, et en particulier la conférence devait être vécue en commun entre les parents et les enseignants. C'est-à-dire que nous avions prévu via le DRE d'inviter les familles, et en particulier nous avons un certain nombre d'écoles qui travaillent avec le dispositif Ouvrir l'école aux parents, et ce dispositif allait être également impliqué dans cette action-là. Puis d'autre part, au niveau des familles, il faut savoir que l'écoute, elle est aussi importante de notre côté vis-à-vis des familles. Ils s'adressent à nous, souvent, en nous disant « là, on ne comprend plus ». Alors souvent, ils ne le disent pas avec ces mots-là. C'est souvent des mots beaucoup plus crus, beaucoup plus difficiles à entendre, beaucoup plus violents, effectivement, qu'on finit par traduire par « on ne comprend plus, aidez-nous ». Et là, pour le coup, on y va pour essayer de les aider. C'est souvent qu'on fait l'interface entre famille et enseignants, qu'on vient expliciter, qu'on vient poser des mots et qu'on accompagne toute cette réflexion-là.
Le travail auprès des familles a déjà démarré, effectivement, réellement, concrètement, sur deux quartiers de Vienne, en lien avec les centres sociaux. Avec la participation des familles sur les comités techniques. Alors, un des centres appelle ça une commission enfance, l'autre appelle ça une commission parentalité, l'autre appelle ça, bon, peu importe, puisque c'est ce qui s'y passe qui est important. Donc, il y a déjà des choses qui ont démarré de part et d'autre, pas sur tous les quartiers, pas sur toutes les communes non plus. Mais c'est pour ça que je vous disais, quand nous en sommes à des actions au coup par coup, en fonction de l'émergence, des problèmes, de l'identification de ces soucis et du travail qui existe déjà. Mais ce sont les centres sociaux, surtout, avec qui nous travaillons et qui sont partie prenante. Après, ils sont partie prenante ou ils sont réactifs et très réactifs. L'année dernière, il y a un travail qui a démarré sur un autre secteur qui a démarré avec le centre social Vallée de Gers. Là, pour le coup, c'était à mon initiative, mais parce que j'avais pointé un certain nombre de choses en allant rencontrer les partenaires sur le terrain, très réactifs, très vite. Et il y a des choses qui sont mises en place. Mais après, comment faire que ce ne soit pas que des coups par coups ici, en réponse à des urgences un petit peu?
Donc, bonjour, Isabelle Bordet, je travaille sur un CAREP dans la région de Caen, en Basse-Normandie. Juste ça en réponse directe, ce n'était pas la question que je voulais poser d'abord, mais on a eu une expérience de cet ordre-là il y a quelques années sur un quartier populaire de Caen qui était en CUX mais qui n'était pas en RRS pour des tas de raisons géographiques et diverses et variées. Moi, on m'a appelé, je crois, trois fois, j'appelle ça faire pompier, c'est-à-dire... tu peux pas venir nous aider là parce que on s'en sort plus en gestion de conflit, machin. Ça finit avec des histoires de tribunal, etc., de claques aux enseignants. Enfin bon, vous voyez, des choses un peu lourdes. Et puis à un moment donné, il y a une nouvelle inspectrice qui est arrivée. C'est vrai que on a travaillé en essayant d'avoir plusieurs types de réponses. C'est-à-dire mais je pense que vous avez fait pareil. Une réponse, c'était l'article 34, parce qu'on avait justement un problème de. Alors l'article 34, c'est un article qui permet, dans la loi d'orientation, mais tout le monde ne connaît pas, de faire jouer des clauses d'expérimentation et des clauses de contournement, enfin, de droit particulier, on va dire. Et donc là, ils ont mis en place l'article 34 pour arriver à avoir une stabilité de l'équipe. C'est-à-dire que les collègues étaient, c'était un turnover, c'était tous les ans, on avait des collègues à titre provisoire, donc impossibilité d'installer un travail d'équipe. Donc là, l'IEN a fait son travail, je dirais, en venant faire des animations, mais aussi en faisant jouer cet article 34 qui a amené une stabilité dans l'école. De l'autre côté, on a fait des moments de travail spécifiquement avec les enseignants, avec des outils aussi sur l'entretien aux parents, etc. Et puis le centre social, c'est pour ça que j'y ai pensé, a fait un boulot, mais presque... Enfin, je veux dire, ils sont installés physiquement dans le hall de l'école, dans un intermédiaire, pour... par contre, les enseignants complètement, parce que c'était des jeunes collègues, c'était un peu dur pour eux de voir arriver des partenaires, mais bon, ils ont trouvé les moyens progressivement, et ça s'est installé. Là, 7 ans après, la directrice est restée, il y a eu des changements de collègues, mais je dirais que c'est une école qui n'est pas une école facile, mais qui est une école qui tient. Alors, sur ce et genre c'est vrai qu'il y a eu cette synergie de réponse. Et c'est vrai, j'avais bien aimé ce boulot-là parce que du coup, chacun était bien à sa place, pouvait faire son travail. Et puis, bon, voilà, ça fait 7 ans que moi, je n'ai pas été appelée à faire pompier. Donc, c'est déjà pour moi un signe de quelque chose. Quoi.
C'est typique de ce que nous avons réalisé sur une école en particulier et qui, voilà, suite à des situations extrêmement lourdes que Baptiste et Magali ont connues tous les deux, d'ailleurs, sur le quartier d'Estressin, où on a passé tous les postes à profil, la directrice bénéficie d'une demi-décharge exceptionnelle parce que 5 classes demi-décharge, il n'y en a quand même pas beaucoup. Voilà, tout le travail de formation a été fait auprès des enseignants avec les conseillers pédagogiques qui y sont allés régulièrement. Tout ce travail a été fait. Nous commençons à voir le positif dans cette école.
C'est long, hein.
Nous commençons au bout de la... Nous sommes à la 3e année et nous commençons... Enfin, nous sommes à 2 ans, pardon, et la 3e année va démarrer. Et nous voyons les fruits de cette organisation-là, c'est-à-dire que nous avons une équipe enseignante qui commence à se dire autonome et qui commence à sentir qu'effectivement, il faut que nous pensions au désétayage. Voilà, très clairement.
C'est vrai que dans l'exemple que je vous donnais, il y avait un élément très très différent, c'est que c'était dans la ville-centre. Donc c'était pour nous, c'est à Caen, donc c'est une ville attractive pour les étudiants.
Oui,
J'aurais eu la même situation
quand je mets 3 postes à profil,
Fleur ou des choses comme ça, là...
Quand je mets 3 postes à profil, je sollicite 3 candidats.
Bien sûr, j'imagine bien. Ouais.
J'en ai pas un de plus.
Mais la question du temps est assez fondamentale dans nos histoires. Hein. Alors j'avais une vraie question à poser sur la formation, c'est la question de l'écriture. J'aurais voulu, tu l'as dit assez vite, ou j'ai pas bien écouté à ce moment-là. C'est de l'écriture de situation, c'est des écritures de là où ils en sont dans leur représentation. Et comment vous le travaillez après, cette écriture?
Sur les temps de formation, il y aura des temps d'écriture, d'émergence, de représentation, etc. Mais ça, c'est autre chose. C'était surtout arriver au bout du compte à quelques grands principes d'action pour une charte.
C'est une charte
de l'école. Mais ça, c'est en finalisation, d'accord?
Oui,
c'est à la fin. Il y a des temps de travail d'équipe, école et partenaires pour en arriver là aussi, qui était prévu dans les 12 heures. Mais ça, c'est à la fin. Sinon, effectivement, il y a tout le travail. Il y avait un questionnaire. On avait déjà travaillé sur un questionnaire avec Marie-Odile en amont, qui pour l'instant, du coup, n'a pas été diffusé non plus. Mais voilà. Ça c'était en finale. Juste par rapport aux centres sociaux, ils ont mis en place déjà dans plusieurs quartiers et écoles, en multipliant toutes les actions détournées en lien avec les écoles qui peuvent exister. Donc moi je les ai pas listées là, mais les petits déjeuners, l'accueil le matin, le ceci, le cela, devant l'école, dans l'école, à côté de l'école. Enfin voilà, c'est une multiplication d'actions diverses et variées et de portes d'entrée.
Oui, donc là, dans ce que vous venez de dire un instant, enfin moi je voulais simplement ramener au récit d'expérience précédent, c'est-à-dire que quand je vois écrit sur le tableau « formation territoriale ». Ce n'était pas exactement le propos du récit d'expérience précédent, sauf que c'était les élèves qui eux-mêmes faisaient territoire en leur demandant d'aller à la découverte du territoire. Et ce que vous venez de dire à l'instant, c'est que les centres sociaux remplissent cette fonction-là. Mais donc nous sommes en train de poser les limites institutionnelles et l'intérêt d'un partenariat ou d'un multipartenariat. Donc l'autre point important, parce que je crois qu'on advienne, question, ce territoire de relégation relevant de l'Académie de Grenoble est aussi proche de Lyon et de l'Académie de Lyon. Est-ce que par hasard, vous avez travaillé sur le sentiment d'appartenance au Rhône ou l'appartenance à la romanité? Parce que c'est à Vienne, si on ne peut pas parler du Rhône et de la romanité et qu'on veut faire du lien social, je trouve ça énigmatique.
Ça a été notre plan de formation de l'année dernière, ça.
Non, mais attendez, excusez-moi.
Nous avons fait une thématique de formation l'année dernière.
Tout à fait. Simplement, vous êtes quasiment la façon de le formuler, on est en fait dans de l'obsolescence programmée. Moi, ce dont je vous parle, c'est de l'histoire de la vallée du Rhône. Je peux vous parler des centrales thermiques qui sont en cours de démantèlement. Et je veux, excusez-moi, on fait le lien avec le rectorat et Grenoble, avec le centre de culture scientifique et technique. Donc je pose la question, et en plus des centres sociaux, si vous avez des petits débrouillards et la main et la patte, à la patte et compagnie, vous avez des clés pour que la problématique de relégation, qui est une problématique qui renvoie à l'histoire du monde du travail et de l'aménagement de la vallée du Rhône, et à Vienne, c'est difficilement de le contester, hein, alors qu'on a en plus les traces de la romanité. Donc il y a un vrai problème. J'ai aucun doute que vous ayez déjà parlé de l'eau et de la romanité. Simplement, moi, j'en parle pas comme un gadget qui disparaît dans les 6 mois. Hein. Et donc, ça, c'est le vrai problème de posture au sein d'un territoire.
Alors, voilà, je vais juste rebondir là sur le problème aussi de posture dans la formation. On n'est pas dans une situation de conseil, hein. On est en train d'essayer de travailler ensemble par rapport à une étude de cas qu'on nous a exposée, et puis bien sûr qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, etc., et par rapport à ses propres contextes pour avoir un aller-retour dans la réflexion. On ne va pas rentrer dans des débats, vous avez fait, vous n'avez pas fait, etc.
Alors, je ne le prends pas du tout comme une mise en accusation de quoi que ce soit, bien au contraire. Vous dire qu'effectivement, c'est quelque chose que nous avons pensé. Et l'année dernière en particulier, nous avons fait une formation importante parce que nos enseignants le demandaient dans le cadre de la formulation de leur projet d'école sur tout ce qui concernait le patrimoine viennois, de la région, patrimoine, agriculture. Hein. Donc cette formation n'a pas été...
Patrimoine industriel. Hein.
Jusqu'au patrimoine industriel, bien évidemment. On a activé tous les partenaires du secteur pour ça, et ça a été extrêmement riche. Et sur cette formation-là, nous avons accueilli nos jeunes enseignants dessus, pour le coup pour eux, de manière obligatoire, en se disant que si nous pouvions éviter que nos jeunes enseignants, lorsqu'ils arrivent chez nous, pleurent d'abord, ça serait mieux de leur faire connaître le territoire sur lequel ils arrivaient pour essayer de les rendre plus à l'aise, finalement, sur ce territoire et construire un sentiment d'appartenance. Voilà. Donc ce travail-là a été fait l'année dernière. Vous avez compris que le turnover important d'enseignants que l'on a fait que bon nombre de nos actions ont du mal à perdurer dans le temps, parce que du coup ce sentiment d'appartenance, il est à reconstruire tous les ans auprès d'un grand nombre d'enseignants, voire même sur certaines écoles de la totalité de l'équipe. C'est ça notre problème, hein. Voilà.
Je voulais prendre la parole par rapport à ce que vous avez souligné, par rapport à la disponibilité d'une directrice que vous l'avez attribuée à mi-temps.
Oui.
Donc moi j'étais directeur d'école pendant 7 ans en RRS, et donc une partie à mi-temps et une partie à plein temps. Et en fait c'était le jour et la nuit. C'est-à-dire que je pense que, et c'est vraiment la leçon que j'ai tirée moi de cette expérience-là, c'est que, et la direction est bien pour ça, il faut une personne, alors pas forcément à plein temps, mais quand même la disponibilité d'esprit notamment est très importante, car quand on a une classe, on est aussi enseignant d'une classe, donc avec les parents d'élèves, on n'est pas forcément tout le temps le directeur, on est aussi l'enseignant, donc c'est double casquette qui est pas facile à gérer. Et pour justement, avec un plein temps par exemple, avec du temps en tout cas, on peut aller au comité de quartier, on peut rencontrer le centre social, on peut être actif et participant réellement, et je crois que c'est une des clés du partenariat avec les partenaires, enfin c'est un redondant, mais avec les, le quartier, avec les associations, et aussi dans le rôle de, d'accompagnement des enseignants. Et je voudrais souligner ça parce que c'est essentiel, et on dit toujours qu'il faut plus de moyens, mais en l'occurrence, c'est un moyen qui est pas suffisant, mais qui est complètement nécessaire et qui fait défaut.
Alors c'est ce qui a été utilisé comme argument, hein, ce que vous citez, ce sont les arguments qui ont été utilisés, que j'ai utilisés auprès de la directrice académique pour obtenir ce quart de décharge supplémentaire pour la directrice, en disant qu'effectivement pour reconstruire cette école, pour reconstruire l'image d'une école dans ce quartier-là, il nous était indispensable que la directrice puisse avoir le temps de faire les liens, puisse avoir le temps de rencontrer les familles et puisse avoir le temps aussi de réfléchir avec les enseignants, avec les parents, avec l'équipe de circonscription pour construire des modalités d'action.
Hein?
Alors oui, c'est pensé de manière exceptionnelle. Je précise qu'on est hors RRS sur le quartier dont je vous parle. On est en quartier CUX mais hors RRS et que du coup c'est quelque chose qui est... Voilà, oui. Oui, mais si vous voulez... Pour le coup, dans un travail de construction de ce projet-là, j'ai réussi à être entendue, mais parce que les arguments étaient, étaient placés dans un contexte plus large que la simple demande de moyens. C'est-à-dire que je n'y suis pas allée en disant j'ai besoin d'un moyen. En clair, nous y sommes allés avec un projet pour cette école et avec un projet de reconstruction de cette image de l'école avec tous les impacts que ça a derrière, c'est-à-dire apaiser le climat scolaire, c'est-à-dire faire que les familles soient moins fuyantes, faire qu'on ait un climat apaisé autour de tout ça, que les élèves soient enfin dans des conditions, j'allais dire, normales pour apprendre, c'est-à-dire comme les autres. Et ça, c'était important. Et puis, restaurer l'image de cette école-là, c'était pour nous essentiel, essentiel, sur tous les plans.
Bonjour, Patricia Simard. Je suis coordonnatrice ZEB dans une petite ville de province en RRS, mais on est très loin de Dijon. Donc, je me retrouvais un peu dans le profil que vous disiez, c'est-à-dire que les jeunes qui arrivent, évidemment, ils n'ont qu'une envie, c'est repartir à Dijon, qui se trouve quand même à 200 km de notre ville. Donc on a beaucoup, beaucoup de turnover, mais par rapport à ce que vous disiez, on a quand même des équipes, des stabilités d'équipe. Alors parfois que 2-3 enseignants sur 8, mais ce qui permet d'intégrer les jeunes et d'en garder. On a une ville, alors on est loin, on est en Bourgogne, mais on est limite Bourgogne, on est presque plus Île-de-France, donc même le côté Bourgogne... intéresse moins, mais on a quand même réussi à garder quelques enseignants et notamment en faisant des directions collégiales qui donnaient aux enseignants un intérêt. Alors une charge de travail en plus, mais parfois elle était presque fictive. C'est seulement le fait de leur dire voilà, on est une équipe, il n'y a pas un directeur qui gère, il y a une équipe qui gère des problèmes de parents, hein, ou d'enfants. Et à chaque fois qu'on avait des difficultés, on était l'équipe, toute l'équipe, à gérer le problème, et pas seulement une personne. Du coup, l'enseignant néo-titulaire se retrouvait un petit peu plus encadré que... Voilà. Mais ça n'empêche qu'on a une très grande fuite des jeunes sur...
Voilà, alors ça marche très bien, cette réflexion collégiale, à partir du moment où, effectivement, comme vous dites, il y a un fonds d'enseignants qui reste et qui peut s'inscrire dans ce travail d'équipe. La difficulté devant laquelle on se trouve, nous, à certains endroits, et c'est là qu'effectivement on a eu beaucoup à réfléchir, c'est qu'à certains endroits, nous n'avons plus ce fonds d'enseignants stable. C'est-à-dire que tout le monde arrive, tout le monde repart. Et pour vous donner juste un exemple sur cette école sur laquelle je vous disais qu'on commence à voir les fruits de ce qui a été décidé, l'année où nous avons vécu un enfer auprès de cette école, mais vraiment, et les enseignants ont vécu un enfer, les élèves étaient malmenés, on en a eu tous conscience. Le jour de la rentrée scolaire, nous sommes passés en équipe saluer les enseignants, la directrice. Nous avons trouvé, il était 3h de l'après-midi, nous avons trouvé la directrice en larmes dans son bureau, nous disant « Tous mes enseignants, à l'heure qu'il est, veulent repartir. » Jour de la rentrée. Vous imaginez l'année qu'on se préparait. elle a été à la hauteur de nos espérances, je vous assure. Voilà. Donc c'est vrai que cette notion d'équipe, ça, nos enseignants le construisent assez vite. J'allais dire, face à quelque chose qu'ils ressentent comme de l'adversité, ils le construisent assez vite. Il faut en revanche que nous soyons très vigilants, nous, à l'accompagner, pour qu'il n'y ait pas de dérive de ça. Il ne faut pas que ce soit des enseignants qui finissent par se liguer contre. Surtout pas. Pour nous, il faut qu'ils construisent, pas qu'ils se liguent contre. Vous voyez, le point de vigilance, il est là, dans ces moments-là, pour nous. D'éviter cette bascule qui serait, du coup, tout à fait, complètement improductive, en tout cas.
Oui, donc il y a encore des questions, on va les laisser se poser, mais on va aller progressivement. Je crois que c'est là ce qui vient d'être dit, qui est qu'est-ce qu'on peut faire dans les métiers où nous sommes, hein, on va pas comment on s'organiserait pour que ça évolue, hein. L'idée, c'est que de toute façon, on fait face au quotidien, on est obligé de réagir, etc., d'où qu'on soit. Mais dans la perspective d'une formation, quelles sont les priorités qu'on se donnerait et vers quoi on voudrait évoluer? Donc, on continue les questions, puis je préciserai un peu plus les consignes tout à l'heure. Donc, est-ce qu'il y a deux questions là, et après on dit qu'on peut bouger vers... vers un travail de petit groupe. Hein?
Oui, excusez-moi. Moi, je voulais revenir sur les fameux écrits sociaux de l'école vers la famille et vers l'élève. Voilà, je voulais savoir si vous aviez répertorié un petit peu et comment est-ce qu'on le pensait aussi travailler avec les élèves. C'est-à-dire ce que j'écris dans le cahier, ce que j'écris dans ton livret scolaire. Comment tu le perçois et comment tu le comprends et comment on co-construit les savoirs avec les élèves et voilà, on est dans du partage aussi. Donc je voulais comprendre parce que vous avez dit que il y avait à un moment vous avez cité des choses écrites en rouge à destination des parents, des choses comme ça qui sont très violentes quand même, hein, quand on est parent d'élèves. Donc, et même en tant qu'élève, certaines appréciations sur le... Voilà, je voulais savoir si ça, vous l'intégriez aussi dans cette formation que vous prévoyez, ou sur comment je parle à l'élève, parce que l'apaisement, il ne viendra pas qu'avec les familles, il viendra aussi avec les élèves, il me semble. Hein, voilà.
Alors, plusieurs étages. Hein, d'intégration de tout ça. L'année dernière, nous avons travaillé sur ces écrits. Alors nous nous sommes appliqués à en récupérer un certain nombre, conseillers pédagogiques comme moi-même, sachant que les conseillers pédagogiques récupèrent plus ces écrits auprès des très jeunes enseignants et que généralement je les récupère moi auprès de l'ensemble des enseignants, puisqu'à ce moment-là, moi je suis plus proche de l'ensemble des enseignants. Nous avons récupéré ces écrits, nous les avons travaillés en formation avec les directeurs d'école, déjà, première chose. Parce que nous sommes persuadés que les directeurs d'école ont aussi un rôle d'impulsion et d'accompagnement de leurs équipes dans la modification de certains comportements. Donc nous avons travaillé ça avec les directeurs. Dans ce que vous disiez par rapport aux élèves, la façon dont on s'adresse aux élèves, dont on annote un livret scolaire par exemple, c'est ce qui va être travaillé, en particulier je pense à tout ce qui est fluidité du parcours, puisque là c'est moi qui vais le traiter, donc je sais à peu près comment je vais le traiter quand même. C'est effectivement cet aspect-là aussi des choses qui va être traité. Qu'est-ce qu'on dit à l'élève? Comment on le dit? À quel moment on le dit? Devant qui? Ou pas devant qui, hein? Et puis ce qui va être traité aussi, c'est comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on intègre la place de l'élève dans la communication que l'on fait aux familles, dans la communication que l'on fait aussi aux autres enseignants. Les interpellations sont parfois redoutables. Voilà. Et puis, ça se travaille également au quotidien, ce genre de choses. Je vous avoue que j'ai un regard très particulier sur les annotations que produisent les enseignants sur les livrets scolaires. Généralement, je les regarde toutes. Je les lis toutes. Et je ne manque pas de faire la remarque lorsqu'elles sont au minimum inopportunes, au maximum que j'ai pu trouver destructrices. Voilà. Donc effectivement, ce sont des choses qui se travaillent au quotidien avec les enseignants. Hein. voilà, par rapport à cet aspect-là.
C'est peut-être pas une question, c'est plutôt un... Ah, pardon. Sylvie Rochatin, je travaille justement sur le programme de réussite éducative, ce que vous appelez DRE.
Oui, parce que chez nous, c'est dispositif de réussite éducative. Ça a été programme, ça a été dispositif, puis reprogramme, puis redispositif.
En ce moment, c'est dispositif.
En ce moment, c'est dispositif.
Donc, on dit DRE. Voilà. Voilà. On s'adapte.
Voilà. Donc, sur un PRE à Vénissieux.
Oui.
Voilà. Et bon, je suis surprise. Alors, bon, on est... Même si on est plus proche de la ville-centre, je pense qu'il y a les mêmes problématiques d'enseignants qui arrivent sur un territoire. Moi, je dirais qu'il y a aussi la problématique de l'encadrement qui n'est pas stabilisé. Notre plus vieille, si je peux parler comme ça, principale de collège, ça fait 2 ans qu'il est sur le territoire. Donc, sur 3 collèges au Minguette, on a 2 équipes, pratiquement 3 équipes nouvellement arrivées. Et je pense que pareil pour les IEN, je dirais. On a eu, moi, ça fait 6 ans que je suis sur le DRE, le PRE de Vénissieux, et on en est au 6e IEN. Donc, c'est difficile de construire des choses dans la durée et pour tout le monde. Et on va être sur la même problématique avec les partenaires, conseiller général, j'en suis à la 6e directrice d'unité territoriale, etc. Donc, finalement, l'équipe la plus stable, c'est l'équipe du PRE. C'est assez bizarre parce qu'il n'y a que des contractuels dans cette équipe. Des gens qui sont dans des situations à renouveler leur contrat tous les ans. Mais bon, ça, c'est en préambule. Alors, la place du PRE, je sais pas, pareil, ils sont très différents d'un territoire à l'autre. Nous, on se situe sur l'articulation de la difficulté, la fragilité d'un enfant et l'accompagnement de l'enfant dans son contexte et de sa famille. Donc on accompagne l'enfant et sa famille. Et je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure, le besoin d'accompagnement des familles. C'est-à-dire, et là, on mesure toute la distorsion et toute la distance qu'il y a entre ces familles et l'école. Ces distances, elles peuvent parfois quand même se travailler autour de simplement pouvoir se comprendre et pouvoir se dire les choses. Et faire venir un interprète, quelquefois, ça pourrait être le béaba du travail qu'on aurait à faire avec les familles.
Ça, c'est utilisé très systématiquement chez nous.
Alors, sur l'Académie de Lyon, il n'y a plus de crédit.
Alors, on n'a pas cette problématique-là pour l'instant. Voilà. Les interprètes viennent très souvent.
Donc, sur l'Académie de Lyon, il n'y a plus de crédit pour payer des interprètes pour parler avec les familles. Alors, c'est quand même déjà une question. Nous travaillons sur des entretiens familiaux. Et dans l'entretien, s'entretenir avec quelqu'un, l'écouter, c'est prendre le temps. C'est prendre le temps d'aborder. Et on a beaucoup de familles dont on a le sentiment quand même que jusque-là, elles n'ont pas eu l'occasion d'être entendues ni écoutées. Par aucune instance. Par aucune instance. Et on a eu des situations assez spectaculaires, enfin assez particulières, où les gens viennent déposer des choses qui semble-t-il n'ont jamais pu déposer. Alors quand je dis on mesure la distance, c'est-à-dire que des parents vont nous dire mais moi je sais pas lire, je comprends pas les écrits de l'école. Alors on voit des enfants de CE1 qui ont pris le pouvoir sur leurs parents. Par rapport à ça, c'est-à-dire si la maman dit ça va, oui, ben oui, tout va bien, tu signes là, tu mets 3 croix, puis c'est bon. Donc je trouve qu'il y a une problématique autour de ces questions-là. Il y a un autre problème que j'ai vécu, c'est la question des équipes éducatives. Et je pense que je ne saurais donner des conseils, mais il me semble que l'école peut à certains moments être extrêmement violente. Et en particulier, à travers ces temps d'équipe éducative, où vous avez autour de la table le médecin scolaire, l'infirmière de l'école, l'assistante sociale, l'éducatrice, l'enseignant, le directeur, le RASEL, etc. Et vous avez un parent qui ne comprend pas un traître mot de ce qui se passe pendant l'équipe éducative. Moi, j'ai vu des parents à qui on a dit simultanément, il faudrait aller à la MDR pour récupérer un dossier MDPH, il faudrait aller voir au CESAD, et surtout, il faudrait prendre rendez-vous au CMP. Alors,
Ah, c'est un chantier.
Et H, ça veut dire quoi? Handicap. Et les parents ont compris, ils étaient d'origine turque, ils ont compris que leur enfant était handicapé. Ils ont passé 48 heures à pleurer. Et puis on les a lâchés avec ça. Alors c'est vrai que... voilà.
Ça aussi, c'est un point sur lequel on travaille, ces équipes éducatives, mais pas que sur le... pas que sur leur déroulement. On travaille en amont, c'est-à-dire sur l'invitation qui est faite aux familles, comment on la formule, comment on, voilà, comment on travaille avec la famille avant.
Alors, je pense que, voilà, dans un lien, excusez-moi, dans un lien avec la famille, on a l'impression parfois que ces équipes éducatives sont des véritables tribunaux et que c'est un travail à faire dans un lien de la proximité, du temps qu'on va passer, de l'écoute. Voilà, enfin, nous, c'est ce qu'on a appris un petit peu comme métier à travers le PRE.
Et c'est, alors, dites-vous bien que voilà, ça fait partie aussi des choses que l'on travaille en équipe de circonscription, voilà, sur ces équipes éducatives. Et quand je disais tout à l'heure que Baptiste allait intervenir sur la prise en charge des élèves en difficulté comportementale, ça revêt aussi cet aspect-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on dit aux familles, quand, comment se passe l'équipe éducative. Et voilà, j'ai conduit dernièrement une équipe éducative où la seule chose que j'ai demandé à l'enseignante, c'était « Vous allez nommer les points d'appui pour cet enfant. Uniquement cela. Les problèmes, la famille les connaît. Je veux les points d'appui. Sur quoi on va pouvoir poser les choses? Sur quoi on va pouvoir avancer? Dites-le nous. » Et quand on joue ce, enfin, quand on travaille ça avec les enseignants, voir le verre à moitié vide, ça devient pénible au bout d'un moment, ça devient productif. Donc à un moment donné, on change le regard. Nommez-moi ce qui est à moitié plein. Dites-moi. Sur quoi on va pouvoir s'appuyer? Et cette famille que le directeur m'avait annoncée comme étant en rupture complète, et il m'a dit ça va très mal se passer, il va y avoir des hurlements, ça va mal se passer. La famille est allée complètement dans notre sens parce qu'effectivement, on lui a montré quels étaient les points d'appui avec cet enfant-là. Voilà ce qu'on peut construire avec votre enfant. Et la famille adhère effectivement plus facilement dans ces cas-là. Mais c'est là aussi tout un apprentissage. Et c'est vrai que quand on a affaire, comme nous, à de très très jeunes enseignants et un turnover important, ce sont des enseignants qui n'ont pas eu le temps d'apprendre ça. Pour l'instant, la vie ne leur a pas appris ça. Donc c'est à nous de le faire. Et c'est un accompagnement constant, parce que les conseillers pédagogiques sont souvent à l'accompagnement avant l'équipe éducative, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va solliciter la famille, sur qu'est-ce qu'on va leur dire, comment on va le dire. Et qu'est-ce qu'on cherche avec cette équipe éducative?
Donc, on va prendre une dernière, question, commentaire. Simplement, oui, on est devant des situations et un certain nombre de constats. Et comme l'ont posé très justement, qu'est-ce qu'on va mettre en place ou quelles priorités on va se donner dans des temps de formation qui ne sont pas si longs que ça pour faire évoluer toutes ces situations?
Oui, c'était là-dessus que je voulais intervenir. Moi, je trouve remarquable d'abord votre présentation à vous deux, très très claire sur la description de la situation. Et on, comme toujours en formation, on est devant cette difficulté de voir la place de l'action de formation dans la stratégie de changement que vous avez construite. Vous nous avez très bien montré qu'il n'y a pas un problème, une formation, et ça règle la question. Et ce que certains ont pu penser à telle ou telle période. Donc c'est toute la difficulté que l'on a en termes d'ingénierie de formation, parce que à la limite on aurait envie de dire c'est pas d'abord un problème de formation, parce que vous avez décrit magnifiquement toutes les actions que vous faites et qui ne dépendent pas de vous, qui dépendent d'un autre niveau. Alors moi, la question que je pose, c'est à quel niveau on va se situer, parce que dans la stratégie de changement, implicitement vous avez fait des propositions qui sont renvoyés à l'éducation nationale sur comment se font les affectations. Pourquoi à Vienne c'est que les débutants? Est-ce qu'on peut faire autrement? Bon, quand on est UN à la circonscription, c'est un peu compliqué de répondre seul à cette question-là. Ça peut dépendre effectivement du directeur, je sais pas comment il s'appelle maintenant, etc.
Directeur académique.
Voilà, le directeur académique, le DAZEN, voilà. Qui effectivement peut, dans sa politique, a un rôle à jouer. Ça renvoie, vous l'avez dit, à ce que seront les ESP l'année prochaine sur comment on va préparer les jeunes enseignants. Donc on sait qu'il y a des tas d'endroits au niveau de la politique, soit nationale, soit académique, soit départementale, qu'on ne va pas travailler ici, mais que l'on sait fondamental pour régler votre problème. Alors, il est évident que vous pouvez, et vous avez les moyens de dire ces choses. Donc, à quel niveau on va se situer? Et là, moi, j'ai une incertitude entre le niveau de la circonscription, puisque c'est une action de formation pour tous les enseignants de la circonscription, ou au niveau d'un quartier et d'une école. Parce que vous avez dit, le projet, c'est qu'ils écrivent cette charte. Donc, non, c'est juste pour savoir, nous, quand on va travailler, là, maintenant, à quel niveau on se place.
Alors, le niveau qui a été choisi est bien celui de la circonscription dans son entier. Parce que ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'on a ces demandes qui nous occupent beaucoup de temps, effectivement, des écoles en quartier CUX, hein, qui sont dans de graves difficultés, mais de manière récurrente. Et puis, nous avons quand même ce constat d'écoles en panne d'inspiration, j'allais dire, lorsqu'il leur arrive quelque chose de ce style-là, et qui, alors pour le coup, avec des enseignants parfois un peu plus chevronnés, parce que souvent ce sont des écoles plus faciles, qui attirent un petit peu plus quand même, se sentent démunis, mais du coup peuvent aller également sur des actions qui sont limites au niveau éthique, j'allais dire, tout simplement par méconnaissance des enjeux de cette relation école-famille. Et je crois que l'ingénierie de formation, voilà, que vous allez, à laquelle vous allez réfléchir, elle doit porter là-dessus. Comment accompagner les enseignants pour qu'ils comprennent les enjeux d'un positionnement correct dans cette relation école-famille. C'est ça, qu'ils en comprennent l'impact sur leur quotidien. C'est ça qui manque. Souvent pour eux, c'est du coup par coup. C'est-à-dire qu'on ne va y réfléchir et on ne va y travailler que lorsqu'on est en difficulté. Non, c'est en amont qu'il faut y travailler. C'est comprendre pourquoi c'est arrivé comme ça. C'est finalement tout cet aspect-là des choses qui nous intéressait dans cette formation. Parce qu'il nous semble qu'il vaut mieux les armer avant que ça ne leur arrive pour qu'en gros, ils évitent de sortir le bazooka là où une simple tapette à mouche suffirait. Hein, c'est exactement ça. Parce que souvent, on a des discours qui peuvent être extrêmement violents pour quelque chose qui aurait pu être résolu en toute sérénité. Hein, voilà. Donc c'est cet aspect-là des choses qui nous intéresse sur la formation.